Chapitre 48. S'asseoir sur son couteau. Une fois hors de la grande baignoire de cuivre, une serviette blanche enroulée autour de ses cheveux, Ninevé se sécha lentement. La servante rondelette aux cheveux gris fit mine de l'aider à s'habiller, mais l'ancienne sage-dame la renvoya, se fichant de ses protestations et de ses regards indignés. Une fois seule, elle se vêtit et étudia dans le miroir la robe de soie vert foncé munie d'un col de dentelle de Mérada qu'elle venait d'enfiler. La chevalière de l'âne était bien à l'abri dans sa bourse, mieux valait ne pas trop y penser, en compagnie d'un terangréal en forme d'anneau distordu. La bague au serpent, en revanche, brillait à l'annulaire de sa main droite. Sa main droite. Mieux valait ne pas penser à ça non plus. Le haut plafond de la chambre était peint en bleu, afin d'imiter le ciel, et des nuages blancs venaient renforcer l'illusion. Même si tout le mobilier reposait sur des pieds dorés en forme de lion d'une taille démesurée, les montants du lit et les jambes des fauteuils étant 10 fois trop chargés de dorures au goût de l'ancienne sage-dame, la pièce restait 10 fois plus confortable que toutes celles où elle avait dormi ces derniers temps. Une chambre vraiment plaisante et à la température convenable. En fait, si Ninevé s'attardait sur ces détails, c'était pour essayer de se calmer. Bien entendu, ça ne fonctionna pas. Ayant senti qu'on canalisait le Saïdar, dès qu'elle mit un pied hors de la chambre, elle vit la protection contre les oreilles indiscrètes qu'Hélène avait tissées et nouées dans le salon. Aussi rutilantes l'une que l'autre, Birgit et Avienda étaient déjà là. 4 chambres donnaient sur ce salon, au plafond représentant également un ciel clairsemé de nuages. Selon Birgit, cette configuration n'avait rien d'exceptionnel à Eboudar. 4 grandes fenêtres en forme d'arche permettaient d'accéder à un grand balcon au parapet peint en blanc. Les motifs en fer forgé, très tarabiscoté, offraient la possibilité d'observer sans être vu l'esplanade Mol Hara, qui s'étendait devant le palais royal. Filtrant de ces fenêtres, une brise légère miraculeusement fraîche charriait l'odeur iodée de la mer. La colère perturbant sa concentration, Ninevé souffrait de la chaleur pratiquement depuis son arrivée au palais Tarasin. Tom et Julien avaient été relégués dans les quartiers des serviteurs, une vexation qui semblait leur faire moins d'effet qu'à Elaine. Alors qu'elle ne décolérait pas, le trouvère avait même ri de bon cœur. Un luxe qu'il pouvait se permettre, cela dit.
« Prends donc un peu de cette excellente infusion, Ninevé, »
dit Elaine, en posant sur sa robe de soie bleue brillant une serviette de table blanche. Comme tout le mobilier du salon, son imposant fauteuil avait de grosses boules dorées en guise de pied, et des sphères identiques ornaient le haut dossier. Avienda avait pris place à côté de la fille héritière, mais sur le sol, où elle s'était assise en tailleur, le bas de sa robe vert pâle au col montant, quasiment assorti au carrelage, dissimulant sagement ses jambes. Son collier d'argent aux motifs entrelacés allait très bien avec la robe, dont à Ninevé. Quant à sa façon de s'asseoir, si elle ne se trompait pas, l'ancienne sage-dame n'avait jamais vu la jeune Aïel prendre un siège. Inutile de dire qu'elle avait attiré les regards dans les 2 auberges.
« Mante et mur sauvage, »
dit Birgit, enchaînant sur la proposition d'Elaine. Sans attendre de réponse, elle emplit une jolie petite tasse de porcelaine. Comme d'habitude, l'archère portait un pantalon bouffant et une veste courte. En ce jour, elle avait opté pour le gris et le bleu. À l'occasion, elle portait des robes. Mais vu ses goûts, Ninevé ne se plaignait pas que ce soit très rare. Toutes les 3 pomponnées et joliment habillées, et personne ne voulait d'elle. Alors que la carafe d'argent brillait de condensation, l'infusion rafraîchie se révéla délicieuse et désaltérante. Ninevé admira le visage parfaitement sec d'Elaine. Pour sa part, elle avait recommencé à transpirer malgré la brise.
« J'avoue que je m'attendais à un autre accueil, »
marmonna l'ancienne sage-dame.
« Vraiment ?»
s'étonna Elaine.
« Après la façon dont Vanden et Adeleas nous ont traités ? D'accord. Disons que j'espérais un meilleur accueil. Je suis enfin une authentique Aes Sedai, et personne ne semble y croire. Je pensais que quitter Salidar ferait changer les choses. »
L'entrevue avec Merilil Cerndevin ne s'était pas bien passée. En guise d'entrevue, il s'était d'ailleurs plutôt agi d'une présentation. Après quelques mots prononcés distraitement par Vanden, Ninevé et Elaine avaient été priés de se retirer, afin que les véritables Aes Sedai puissent converser entre elles. Merilil avait prétendu que les voyageuses devaient brûler d'envie de faire un brin de toilette, mais en réalité, elle les avait proprement fichues à la porte. Confrontées à un choix truqué, se laisser traiter comme des acceptées dociles ou boudées comme des gamines, les 2 jeunes femmes avaient choisi la première option. Le simple fait d'y repenser réduisit à néant tous les efforts que Ninevé avait produits pour se calmer. Du coup, elle se mit à ruisseler de sueur. Avoir été renvoyé ainsi n'était pas la pire offense, en réalité. Très vite, les cheveux noirs brillants et les yeux sombres, la kerianienne Mary Lille, comme toutes les sœurs grises, posait sur le monde un regard que rien ne semblait avoir jamais étonné. Pourtant, elle avait écarquillé les yeux quand Vanden lui avait annoncé qu'Elaine et Ninevé étaient des sœurs comme elle. Et que dire de sa réaction quand elle avait appris qu'Egwen portait désormais l'étole de la chair d'Amerline? Être informé qu'il existait désormais une championne, en la personne de Birgit, l'avait surprise aussi. Mais elle était parvenue à mieux se maîtriser. À peine un regard interloqué et un pincement de lèvres. Finalement, c'était Avienda qui avait eu la meilleure part. Mary Lille se contentant de marmonner qu'elle adorerait la vie de novice. Puis les quatre visiteuses avaient été promptement expédiées dans leurs appartements. Avec l'aimable suggestion, en fait un ordre déguisé, de ne pas hésiter à prendre plusieurs jours de repos pour se remettre des rigueurs du voyage. Sortant son mouchoir de sa manche, Ninevé s'éventa futilement avec le carré de dentelle.
« Je commence à penser qu'elle nous cache quelque chose. »
« Allons, Ninevé, »
dit Elaine.
« Je n'aime pas plus que toi la manière dont on nous a traités. Mais tu essaies de faire un éléphant d'une souris. Si Vanden et Adeleas ont envie de courir après des fugitives, grand bien leur fasse. Tu préférerais qu'elles participent à la recherche de la coupe en prétendant la diriger ?»
Pendant le voyage, Elaine et Ninevé, justement pour éviter ça, n'avaient pratiquement pas mentionné le terrain gréal qui motivait leur venue à Eboudar. N'empêche, l'ancienne sage-dame restait persuadée que les deux sœurs aux cheveux blancs leur cachaient quelque chose. Elaine ne voulait pas l'admettre, voilà tout. Adeleas ne s'était pas aperçu que Ninevé avait entendu sa remarque au sujet de la trace des fugitives, une fois la colonne arrivée à Eboudar. Quand l'ancienne sage-dame avait demandé si les deux sœurs espéraient vraiment en trouver, Vanden avait répondu un peu trop hâtivement qu'elles essayaient à tout moment et partout de repérer des jeunes femmes ayant fui la tour. Une remarque parfaitement absurde. Personne n'était parti de Salidar. En revanche, les novices s'enfuyaient parfois. Leur vie n'était pas facile. Des années d'obéissance les attendant avant qu'elles puissent enfin prétendre penser par elles-mêmes. Et il arrivait qu'une acceptée, lasse d'attendre de recevoir le châle, essaie de se défiler. Mais très peu de ces femmes, c'était bien connu, même de Ninevé, parvenaient à quitter Tarvalon. Et les rares qui réussissaient étaient presque toutes ramenées de force à la tour. Lors de la formation, une candidate pouvait être jetée dehors à tout moment. Parce qu'elle n'était pas assez puissante, par exemple. Ou pour avoir refusé de subir l'épreuve permettant d'accéder au statut d'acceptée. Ou celle qui donnait accès au rang d'Aes Sedai, et à laquelle Elaine et Ninevé avaient échappé. Bien entendu, on était aussi éjecté en cas d'échec à l'une ou l'autre de ces épreuves. Mais on ne s'en allait jamais librement, sauf lorsqu'on portait le châle. Si les fugitives en liberté étaient si rares, pourquoi Vanden et Adeleas espéraient-elles en trouver à Eboudar? Et pourquoi avaient-elles éludé ainsi la question de Ninevé? L'ancienne sage-dame redoutait de connaître la réponse, au moins à la seconde question. Alors qu'elle avait cru s'être honnêtement améliorée sur ce point, ne pas tirer sur sa natte lui demandait un effort surhumain.
« Au moins, »
marmonna-t-elle,
« Matt sait enfin que nous sommes des Aes Sedai. Qu'il prenne garde à ce qu'il fait. »
Désormais, Ninevé était capable de se mesurer à lui. Qu'il tente quoi que ce soit, et il verrait ce que ça faisait d'être bombardé avec tout ce que le pouvoir était en mesure d'utiliser comme projectile.
« C'est pour ça que tu l'as évité comme un Tcheltanien qui joue au chat et à la souris avec un collecteur d'impôts ?»
demanda Birgit avec un petit sourire. Ninevé sentit qu'elle rosissait. Franchement, elle pensait avoir beaucoup mieux dissimulé ses sentiments.
« Même pour un homme, il est très énervant. »
intervint Avienda.
« Birgit, tu dois avoir voyagé très loin. Tu parles si souvent d'endroits ou de gens dont j'ignorais jusqu'à l'existence. Un jour, j'aimerais bien sillonner les terres mouillées et découvrir toutes ces curiosités. C'est quoi un Tcheltanien? Un habitant de Tchelta? Mais où se trouve ce pays ?»
Le sourire de Birgit s'effaça. Où qu'ait pu être cette contrée, elle devait avoir disparu depuis un millénaire, si elle n'avait pas appartenu à un autre âge. L'héroïne et sa sacrée habitude de mentionner des reliques du passé dans les conversations. Ninevé regrettait de ne pas avoir été là pour entendre l'archère avouer à Egwene ce que cette dernière savait déjà. Durant son séjour chez les Aiel, Egwene avait énormément gagné en assurance, et elle n'avait guère de tolérance pour ce qu'elle considérait comme des enfantillages. De fait, Birgit était sortie de leur entretien avec la queue entre les jambes. Même ainsi, Ninevé préférait largement l'héroïne à Avienda, qui la mettait souvent très mal à l'aise avec ses regards durs et ses propos sanguinaires. De plus, si agaçante que fut Birgit, l'ancienne sage-dame avait promis de l'aider à garder son secret.
« Matt m'a menacé, »
annonça-t-elle. La première idée qui lui était passée par la tête pour détourner la conversation, et bien entendu, la dernière chose qu'elle aurait voulu rendre publique. Alors que Ninevé rosissait de rechef, Elaine eut un sourire, qu'elle eut la bonté de dissimuler derrière sa tasse d'infusion.
« Pas de cette façon. » précisa Ninevée quand elle vit Avienda poser la main sur le manche de son couteau. Pour Layel, la violence semblait la meilleure réponse à tous les problèmes.
« C'est seulement que... »
Avienda et Birgit ouvrirent grandes les oreilles.
« Il a dit que... »
Après que Ninevée fut venue au secours de Birgit, Elaine vint à la rescousse de l'ancienne sage-dame.
« Assez parlé de Maître Cotan !»
s'écria-t-elle.
« Il est ici parce que Egwene ne voulait pas l'avoir dans les jambes, et je trouverai plus tard un moyen de m'y prendre avec son terrain gréal. »
Elaine eut une moue irritée. Elle n'avait pas du tout apprécié que Vanden et Adeleas commencent à canaliser le pouvoir sur Matt sans même un « avec ta permission », et encore moins aimé que le jeune homme ait filé vers l'auberge. Bien entendu, elle n'aurait rien pu y changer. En lui disant de faire ce qu'il était de toute façon obligé d'accomplir, elle prétendait être en mesure de lui donner l'habitude d'obéir. Eh bien, ce n'était pas encore gagné.
« Matt est la composante la moins importante de ce voyage »,
insista la fille héritière.
« Exact »,
fit Ninevée, soulagée qu'Elaine l'ait tirée d'un mauvais pas.
« La coupe, voilà tout ce qui compte. Je propose de partir en éclaireuse »,
dit Birgit.
« Et Boudard semble encore plus mal famé que dans mes souvenirs. Et le quartier que vous avez décrit pourrait bien être pire. »
Elle évita de regarder Avienda.
« Pire que tout le reste. S'il faut explorer les lieux, »
dit la jeune Ayel.
« Je veux être de l'aventure. J'ai un cas d'Insor. Une éclaireuse est censée se fondre dans le paysage. »
rappela gentiment Elaine.
« Nous devrions nous trouver pour toutes des tenues locales, afin de pouvoir mener les recherches sans laisser personne en arrière. Même si c'est Ninevée qui aura le moins de mal à passer inaperçue. »
Toutes les habitantes des Boudards semblaient avoir les yeux et les cheveux noirs, comme l'ancienne sage-dame. Des caractéristiques que ne partageaient pas la fille héritière, Layel et l'archère. Avienda soupira à Pierre Fendre, et Ninevée eut envie de l'imiter quand elle songea au décolleté plongeant à la mode à Éboudard. Étroit, certes, mais vertigineux. Ignorant le sens du mot « pudeur », Birgit eut en revanche un grand sourire. Avant que la conversation puisse aller plus loin, une femme aux courts cheveux noirs vêtue de la livrée de la maison Mitsobar entra sans frapper dans le salon. Une façon de faire que Ninevée jugeait impolie, malgré tout ce que pouvait dire Elaine sur le code de comportement des domestiques. La jupe blanche de la servante était cousue à hauteur du genou gauche, afin de révéler son jupon vert. Du côté gauche du corsage, une broderie représentait l'encre et l'épée verte des Mitsobar. Même chez une domestique, le décolleté avait quelque chose de vertigineux, comme dans le souvenir de Ninevée. Plutôt rondelette et d'âge moyen, la servante hésita un peu, s'inclina, puis s'adressa à la cantonade.
« La reine Tailin désire voir les trois Aes Sedai, si tel est leur bon plaisir. »
Les quatre femmes échangèrent des regards interloqués.
« Il n'y a que deux sœurs dans cette pièce, »
dit Elaine.
« Il faudrait peut-être aller chercher Merilil. On m'a envoyé dans ses appartements. Aes Sedai. »
L'hésitation était presque imperceptible, mais pas tout à fait. Et on aurait presque pu entendre un point d'interrogation derrière le titre. Elaine se leva et tira sur le devant de sa robe. Quelqu'un qui ne la connaissait pas n'aurait pas vu la colère que dissimulait son visage impassible. Mais il y avait comme une tension au coin de ses yeux et de sa bouche.
« Nous y allons, Ninevée, Avienda, Birgit. Elaine, je ne suis pas une sœur, »
dit Avienda.
« On m'a bien précisé, seulement les Aes Sedai, »
s'empressa de rappeler la servante.
« Avienda et moi, »
dit Birgit, avant que la fille héritière ait pu parler.
« Nous irons jeter un coup d'œil à la ville pendant que vous voyez la reine. »
Elaine foudroya les deux femmes du regard, puis soupira.
« D'accord, mais soyez prudente. Ninevée, tu viens ou tu veux aussi aller vadrouiller ?»
Une question posée d'un ton très sec et avec un regard peu amène pour Birgit.
« Je ne raterai cette audience pour rien au monde, »
répondit l'ancienne sage-dame.
« Quel plaisir de rencontrer quelqu'un qui nous prend pour... »
Elle ne finit pas sa phrase, qui n'était pas pour les oreilles de la servante.
« Ne faisons pas attendre la reine. Pour sûr, »
dit la domestique.
« Surtout si je ne veux pas me faire arracher les oreilles. »
Oreilles arrachées ou non, il fallut un certain temps pour remonter les couloirs du palais. Comme pour compenser la blancheur uniforme de l'extérieur du complexe, l'intérieur était particulièrement coloré. Dans un corridor, on trouvait un plafond bleu et des murs verts. Dans un autre, des murs jaunes et un plafond rose pâle. Sur le sol, les carreaux en forme de losange pouvaient composer des harmonies en noir et blanc, en bleu et jaune, en vert et rouge, bref, toutes les combinaisons possibles. Les tapisseries, relativement rares, représentaient exclusivement des scènes de la mer, et toute une collection d'objets d'art était exposée dans une multitude de niches murales. Dans ce feu d'artifice de vases, de statuettes et de coupes en cristal, les merveilles de l'artisanat du peuple de la mer, experts en porcelaine, attirèrent particulièrement le regard des deux visiteuses. Comme dans tous les palais du monde,
des domestiques allaient et venaient dans tous les sens. La version masculine de la livrée comportait un pantalon blanc, une chemise de la même couleur aux larges manches plissées et une veste verte. Alors que la servante venait de s'engager dans un nouveau couloir, Ninevé vit un homme avancer à grands pas dans leur direction. Tirant la fille héritière par le bras, l'ancienne sage-dame s'immobilisa net. C'était Jaishim Karidin. Il passa à côté des trois femmes sans leur accorder un regard, sa cape blanche ondulant dans son dos. Bien que transpirant à grosses gouttes, il ne semblait pas affecté par la chaleur, si on se fiait à sa démarche rapide.
« Que fiche-t-il ici ?»
demanda Ninevé. Cet homme était responsable d'une boucherie à Tanchico, et dans la lumière seule savait combien d'autres endroits. La servante fronça un sourcil intrigué.
« Eh bien, les fils de la lumière nous ont eux aussi envoyé une délégation. Il y a des mois de ça. La reine, Aes Sedai. »
De nouveau, la même hésitation. Elaine parvint à acquiescer avec grâce. Ninevé, en revanche, répondit sans dissimuler son agacement.
« Oui, il ne faut pas la faire attendre. »
Sans le faire exprès, Myrilil avait lâché sur Tailin une information précieuse. Cette souveraine était volontiers pointilleuse et se montrait très à cheval sur le protocole. Cela dit, si elle doutait elle aussi d'avoir affaire à des Aes Sedai, Ninevé était tout à fait disposée à la gratifier d'une petite démonstration. La servante abandonna les deux jeunes femmes dans une grande salle au plafond bleu clair et au mur jaune. Une rangée de hautes fenêtres en forme d'arche à trois arcs donnait sur un long balcon au plafond au parapet de fer forgé. Là aussi, une brise à l'odeur iodée venait rafraîchir l'atmosphère. Face à la reine, Elaine et Ninevé se fendirent du salut minimaliste dont une Aes Sedai devait s'acquitter devant une tête couronnée, un genou très légèrement plié et un signe de tête presque imperceptible. Tailin était une femme des plus impressionnantes. Même si elle n'était pas plus grande que Ninevé, il émanait d'elle une majesté et une autorité qu'Elaine aurait eu du mal à égaler, même dans ses meilleurs jours. Alors qu'elle aurait dû répondre aux deux sœurs par un salut identique, elle s'en abstint, se contentant de les dévisager avec ses grands yeux noirs. Sans se laisser démonter, Ninevé lui rendit froidement l'appareil. Une crinière noire, quelque peu grisonnante sur les tempes, cascadait dans le dos de la reine, dont le visage restait fort beau en dépit de quelques rides. Bizarrement, deux cicatrices tellement anciennes qu'elles ne se voyaient presque plus marquaient les joues de la souveraine. Bien entendu, un couteau à lame incurvée était glissé dans sa ceinture en fil d'or, le fourreau et le manche étant tous les deux incrustés de pierres précieuses. Une arme de fantaisie aurait juré Ninevé. Quand elle avait l'intention de se battre en duel, une femme ne portait sûrement pas une robe de soie bleue aux manches ornées de filaments de dentelle assez longs pour lui cacher les doigts quand elle baissait les mains. Elle n'exposait pas non plus ses jupons en faisant relever le devant de sa robe, et elle évitait d'être affublée d'une traîne dans laquelle elle risquait de s'en mêler les pieds. Enfin, elle n'optait pas pour un corsage surchargé de dentelle et si serré qu'on se demandait par quel miracle elle parvenait à s'asseoir et à se relever. Autour du cou de Tailin, accroché au collier en or tissé qui ajoutait encore de la dentelle à sa mise, pendait dans un fourreau blanc un couteau de mariage, le manche en bas, dont la présence soulignait l'audace d'un décolleté ovale qui n'avait rien à envier à celui, très étroit, des autres femmes du palais.
« Vous devez être Elaine, Ninevé, »
dit Tailin, en prenant place dans un fauteuil sculpté pour ressembler à du bambou, mais surchargé de dorures. Sans quitter les deux jeunes femmes des yeux, elle arrangea soigneusement sa robe, puis reprit de sa voix mélodieuse et pleine d'autorité.
« J'ai cru comprendre qu'il y avait une troisième sœur. Avienda. »
Ninevé consulta Elaine du regard. La reine ne les avait pas invitées à s'asseoir, ne jetant même pas l'ombre d'un regard au siège libre.
« Elle n'est pas une Aes Sedai, »
dit très calmement Elaine. Tailin ne lui laissa pas le temps d'aller plus loin.
« Alors que vous l'êtes toutes les deux ?»« Elaine, je parie que tu as à peine 18 ans. Et toi, Ninevé, qui me regarde avec l'air d'un chat qu'on a attrapé par la queue, quel âge as-tu ? 22 ans ? 23 ? Qu'une lame me transperce le foie. J'ai été à Tarvalon et j'ai visité la Tour Blanche. Aucune femme de ton âge n'a jamais porté cette bague à sa main droite. 26 ans !»
s'écria Ninevé. Une bonne partie des membres du Cercle des Femmes, à Chandemonde, la jugeant trop jeune pour faire une bonne sage-dame, Ninevé avait pris l'habitude d'insister lourdement sur chaque anniversaire dont elle pouvait s'enorgueillir.
« J'ai 26 ans, et je suis une Aes Sedai de l'âge à jaune. »
Une déclaration qui continuait à remplir de fierté la jeune femme.
« Elaine a certes 18 ans, mais c'est une sœur, et elle appartient à l'âge à vert. Vous pensez que Merylil ou Vanden nous laisseraient porter cette bague pour nous amuser ?» Tailin, bien des choses ont changé. La chère d'Amirlin, Egwene Alvéré, n'est pas plus âgée qu'Elaine. Vraiment ? Je n'en ai pas été informé. Alors que la Aes Sedai qui me conseillait depuis mon accession au trône, et qui aidait mon père avant moi,
est parti sans explication pour Tarvalon, alors que j'ai fini par apprendre que les rumeurs au sujet d'un schisme à la tour n'en étaient pas, alors que les fidèles du dragon jaillissent du sol comme des champignons, et alors qu'une chair d'Amérine rebelle s'oppose à Elaïda et fait lever en Altara, à mon insu, une armée par un des plus grands généraux. Avec tout ça, tu voudrais que je sois une grande amatrice de surprises ?
Nineveh espéra que son malaise n'apparaissait pas sur son visage. N'apprendra-t-elle donc jamais à se taire, au moins de temps en temps ? Brusquement, elle s'avisa qu'elle ne sentait plus la source authentique. L'embarras et la colère ne faisant pas bon ménage, elle était privée du pouvoir. Au fond, c'était probablement mieux comme ça. Capable de canaliser, elle aurait bien été fichue de se ridiculiser encore plus. Comme un peu plus tôt, Elaine vola au secours de sa compagne.
« Je sais que vous avez déjà entendu ça, mais permettez-moi d'ajouter mes excuses à celles de Merylil et des autres sœurs. Lever une armée chez vous et sans votre permission était un comportement indigne. Tout ce que je peux avancer, en matière de circonstances atténuantes, c'est que tout s'est enchaîné très vite. À Salidar, nous avons été pris dans un tourbillon, croyez-moi. Mais ça ne justifie rien. Je vous jure que nous n'entendons pas nuire à Altara, et encore moins offenser le trône des vents. Au moment même où nous parlons, Gareth Bryne conduit cette armée au nord, afin qu'elle quitte votre royaume. »
Tailyn dévisagea la fille héritière sans ciller.
« Avant les tiennes, je n'avais pas entendu d'excuses. Mais tout dirigeant de l'Altara doit apprendre à avaler sans sel ni épices les insultes des pays plus puissants. »
La reine prit une grande inspiration et, dans une grande envolée de dentelle, tendit un bras vers deux fauteuils.
« Asseyez-vous. Oui, toutes les deux. Asseyez-vous sur votre couteau et dégainez votre langue. »
Tailyn eut un sourire presque joyeux.
« Désolé. Je ne sais pas comment on dit ça en Andorien. Mettez-vous à l'aise et n'ayez pas peur d'exprimer le fond de votre pensée. »
Nineveh se félicita qu'Elaine ait écarquillé les yeux de surprise, car elle venait elle-même de pousser un petit cri. C'était ça, la femme pointilleuse que Merylil prétendait très à cheval sur le protocole ? Les jambes coupées, l'ancienne sage-dame fut soulagée de s'asseoir. Songeant à tous les courants plus ou moins secrets qui existaient à Salidar, elle se demanda si Tailyn essayait de... quoi exactement ? Au fil du temps, Nineveh en était venue à soupçonner tout le monde, à part ses plus proches amis, de vouloir la manipuler. Assise au bord de sa chaise, très raide, Elaine ne semblait pas en confiance non plus.
« C'est ce que je pense, »
insista la reine.
« Quoi que vous disiez, je ne me sentirais pas insulté. »
À la façon dont ses doigts pianotaient sur le manche du couteau accroché à sa ceinture, le mutisme, en revanche, risquait de n'être pas bien reçu.
« Je ne sais pas trop par où commencer, »
fit Nineveh, mal à l'aise. Voir Elaine approuver du chef son introduction ne la réconforta pas. La fille héritière était censée savoir comment traiter les têtes couronnées. Pourquoi ne disait-elle rien ?
Si on optait pour un « pourquoi ?»
s'impatienta la reine.
Pourquoi 4 Aes Sedai de plus ont-elles quitté Salidar pour venir à Ebudar ? Ce n'est sûrement pas pour dominer en nombre la délégation de l'Aïda. D'ailleurs, Teslin ne l'appelle même pas comme ça. Et il n'y a qu'elle et Jolin. Vous n'étiez pas au courant ?
La reine se laissa aller dans son fauteuil et dissimula son sourire derrière sa main.
Au moins pour les capes blanches, vous savez. Bien.
La main libre de Tailyn s'abattit dans l'air comme un couperet, puis son hilarité se dissipa peu à peu.
Eh oui, les capes blanches aussi, même si ça me déplaît. Mais je dois écouter tous ceux qui me le demandent, y compris l'inquisiteur Caridine. Pourquoi écouter ?
S'enquit Nineveh.
Je suis contente d'apprendre que vous n'aimez pas les capes blanches. Mais dans ce cas, pourquoi prêter l'oreille aux propos de Caridine ? Cet homme est un boucher.
L'ancienne sage-dame comprit qu'elle avait commis une nouvelle erreur. La façon dont Elaine se mit soudain à étudier la grande cheminée blanche, au linteau sculpté de hautes vagues, le lui a appris avant même que Tailyn se soit embrunie.
« Tu m'as prise au mot, Nineveh. Je vous ai dit de dégainer vos langues et... »
La reine baissa les yeux sur le sol, semblant se recueillir. Nineveh regarda Elaine avec l'espoir de comprendre ce qu'elle avait fait de mal, ou mieux encore, de se faire souffler un moyen de réparer les dégâts. Mais la fille héritière se contenta de lui couler un regard en biais avant de s'en retourner à la contemplation de la cheminée. L'ancienne sage-dame se demanda si elle devait, elle aussi, détourner les yeux de Tailyn. Mais elle ne put s'y résoudre, fascinée par cette femme qui observait le sol, tout en caressant le manche du couteau accroché à sa ceinture et celui de l'arme plus petite qui pendait à son cou. Ce couteau de mariage en disait assez long sur Tailyn. Au sujet des Boudards, Vanden et Adéléas n'avaient pas été avares de renseignements. En général, ceux qui incitaient à penser que la ville était un coupe-gorge, quand on ne disposait pas d'une dizaine de gardes du corps en armure. Le fourreau blanc indiquait que la reine était veuve et n'entendait pas se remarier. Les quatre perles et la larme de feu enchâssée dans le manche enveloppé de fil d'or indiquaient qu'elle avait enfanté quatre fils et une fille. Le cercle d'émail rouge qui entourait trois perles et celui qui entourait la larme de feu annonçait que seul un fils avait survécu. Les quatre enfants étaient morts au minimum à l'âge de 16 ans et dans des duels, sinon les cercles d'émail auraient été noirs. Qu'il devait être pénible de porter en permanence autour du cou le souvenir de tous ces deuils. Selon Vandaine, que leurs pierres soient des perles, des larmes de feu ou du verre coloré, les femmes tiraient une grande fierté des cercles rouges ou blancs. Et toujours d'après la sœur, elles retiraient souvent du manche de leur couteau les pierres représentant leurs enfants âgés de plus de 16 ans qui avaient refusé un duel. Et quoi qu'il arrive, elles ne revenaient jamais sur cet ostracisme. Tailyn releva enfin les yeux. Sa main gauche s'éloigna du couteau de sa ceinture, son expression se radoucit, mais elle continua à caresser le manche du couteau de mariage.
« Je veux que mon fils me remplace un jour sur le trône des vents. Beslan a ton âge, Elaine. Au royaume d'Andorre, cette succession irait de soi, à condition qu'il s'agisse d'une fille et pas d'un fils. »
Tailyn eut un sourire qui semblait sincèrement amusé.
« Idem dans la plupart des autres royaumes, sauf au Mourandi, où les choses se passent à peu près comme en Altera. Depuis la mort d'Arthur el de Faucon, une seule maison est parvenue à conserver le trône sur 5 générations. Et la chute d'Anarina fut si brutale que la maison Todande, aujourd'hui encore, accourt comme un bon toutou dès que quelqu'un l'appelle. Aucune autre maison n'a eu plus de 2 souverains d'affilée. Quand mon père a conquis le trône, les autres maisons possédaient une plus grande partie des boudards que la lignée Mitsobar. S'il était sorti du palais sans une haie de garde, on l'aurait cousu dans un sac avec des pierres et jeté dans le fleuve. À sa mort, il m'a légué ce que je détiens à présent, à savoir peu de choses par rapport aux autres souverains. En changeant régulièrement de monture, un cavalier atteindrait en moins d'une journée de galop les limites de mon pouvoir. Pourtant, je ne suis pas restée inactive. Quand j'ai appris l'avènement du dragon réincarné, j'étais certaine de pouvoir léguer à Beslan 2 fois plus de terres et un certain nombre d'alliés. La pierre de Théar et Kalandor ont tout bouleversé. À présent, je remercie Pedron Nial quand il fait en sorte que Lilian annexe 40 lieues de mon pays plutôt que de l'envahir. Oui, j'écoute Jaichim Caridin, et je ne lui crache pas au visage, même si beaucoup de mes sujets sont morts lors de la guerre des Capes Blanches. Je tends l'oreille à ce que dit le confesseur, au propos de Teslin et à ceux de Merilil. Et je prie, afin de pouvoir transmettre quelque chose à mon fils, au lieu d'être retrouvée morte dans mon bain, le jour où il aura péri lors d'un accident de chasse.
Tailyn prit une grande inspiration. Elle ne se rembrunit pas cette fois, mais son ton changea, devenant plus incisif.
« Voilà, pour vous, je me suis exhibé torse nu au milieu du marché aux poissons. C'est à votre tour à présent. Pourquoi ai-je l'honneur de voir débouler 4 autres Aes Sedai ?»« Nous sommes ici pour trouver un terrain gréal, »
dit Elaine. Sous le regard stupéfait de Nineveh, elle raconta tout, du monde des rêves à la poussière qui s'entassait dans le grenier où se trouvait la coupe.
« Restaurer le climat serait une bénédiction, »
dit Tailyn.
« Mais le quartier que tu me décris semble être de l'autre côté du fleuve. Le Rahad, une partie de la ville où même la garde civile hésite à s'aventurer. Surtout ne vous vexez pas, je sais que vous êtes des Aes Sedai. Mais là-bas, on peut se retrouver avec un couteau entre les omoplates avant d'avoir compris ce qui se passe. Quand la victime porte de beaux vêtements, les tueurs utilisent une lame très étroite pour ne pas les tacher de sang. Ne devriez-vous pas laisser Vandaine et Adelea se charger des recherches? Elles sont plus expérimentées que vous. Elles vous ont parlé de la coupe ?»
s'écria Nineveh. La reine secoua la tête.
« Non, mais elles m'ont parlé de recherche. Les Aes Sedai ne disent jamais un mot de plus que nécessaire. »
Tailyn sourit de nouveau. Une franche gaieté, semblait-il, même si les cicatrices sur ses joues ressortirent un peu plus.
« Vous êtes l'exception à la règle, toutes les deux. Espérons que les années ne vous fassent pas trop changer. Je regrette souvent que Kavandra soit retournée à la tour. Avec elle aussi, je pouvais parler à cœur ouvert. »
Faisant signe aux deux femmes de rester assises, la reine se leva et traversa la pièce pour aller frapper un gong d'argent avec un marteau d'ivoire. Pour un si petit gong, le son se révéla très fort.
« Je vais nous faire apporter de l'infusion à la menthe rafraîchie, puis nous continuerons à parler. Vous me direz comment je peux vous aider. Mais si j'envoie des soldats dans le Rahad, sachez que ça déclenchera des émeutes semblables aux révoltes du vin. Ensuite, vous pourrez peut-être m'expliquer pourquoi la baie est pleine de bateaux du peuple de la mer qui n'accostent pas pour faire du commerce. »
Les trois femmes passèrent un long moment à savourer l'infusion, tout en parlant du Rahad et de tout ce que la reine ne pouvait hélas pas faire. Puis Beslan entra, jeune homme fort bien éduqué qui s'inclina respectueusement devant les Aes Sedai, ses beaux yeux noirs brillant de surprise, et laissa transparaître son soulagement quand sa mère l'autorisa à se retirer. À l'évidence, il avait reconnu des sœurs au premier coup d'œil. Finalement, Elaine et Ninevée prirent congé de la reine et se mirent en chemin pour leurs appartements.
Ainsi, Vanden et Adeleas ont l'intention de prendre également les recherches en main,
souffla Ninevée, après s'être assurée qu'aucun domestique n'était assez prêt pour entendre. Tailin en avait trop appris sur elle, et en trop peu de temps. Et malgré son beau sourire, elle n'avait guère apprécié la présence des sœurs à Salidar.
Elaine, tu crois qu'il était sage de tout lui raconter? Et si elle décidait, afin de garantir la couronne à son fils, de nous laisser trouver la coupe puis d'avertir Tesline?
Ninevée se souvenait vaguement de Tesline, une sœur rouge très désagréable.
Je sais ce que ma mère pensait des Aes Sedai qui allaient et venaient en Andorre sans jamais lui dire pourquoi. Et je sais ce que j'éprouverais à la place d'une reine confrontée à ça. De plus, je me suis souvenu d'avoir eu un cours au sujet de cette phrase. S'asseoir sur son couteau et dégainer sa langue. Mentir est la meilleure façon d'insulter quelqu'un qui vous l'a dit.
Elaine pointa le menton.
Quant à Vanden et Adeleas, elles imaginent prendre la direction des recherches. Le quartier Rahad est sans doute dangereux, mais sûrement pas plus que Tanchico. Et nous n'aurons pas à redouter la Jeanne Noire. Je parie que nous aurons la coupe d'ici à 10 jours. Entre-temps, j'aurai appris pourquoi le terrain gréal de Mat a un effet qu'il ne devrait pas avoir. Et nous partirons rejoindre Egwene avec un maître Coton aussi docile que Vanine. Vanden et Adeleas resteront ici avec Merylil et Tesline, en prime, se demandant ce qui a bien pu arriver.
Ninevée ne put s'empêcher de rire aux éclats. Un domestique occupé à déplacer un grand vase de porcelaine la regardant, très surpris, elle s'offrit le luxe de lui tirer la langue. Le pauvre homme faillit laisser tomber le vase.
Je ne parierai pas contre toi, sauf en ce qui concerne Mat. 10 jours, donc.